Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Et bonsoir à toutes et à tous. C'est le début d'une troisième saison de cette émission Alors on change, l'émission mensuelle d'Alternatiba Villefranche, consacrée au climat et au développement d'alternatives locales en partenariat avec Radio Calade.
Calade, ma radio.
J'espère que vous avez tous et toutes passé un bel été et que les nouvelles de la planète ne vous ont pas trop démoralisé. En tout cas, dans cette émission pour la nouvelle saison, toujours plus d'infos sur les questions du climat, toujours plus d'invités ici et ailleurs pour décrypter avec nous un sujet d'actualité. Océan en surchauffe, canicule, incendie, inondation. Le temps du réchauffement climatique est terminé et laisse place à l'ère de l'ébullition. Ce sont les mots de Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies à la mi-juin, lors d'une conférence de presse. De fait, l'été 2023, dans la continuité de 2022, nous a montré un peu plus chaque jour les effets du réchauffement climatique en cours. Ce mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur la Terre. Il a fait 0,33 centièmes de degré plus chaud que le mois qui détenait jusqu'à présent le record. On parle de juillet 2019 seulement. Et ce soir, nous allons partir de ces événements climatiques extrêmes de l'été pour se demander comment, généralement, ici, localement, on gère les risques. Comment prévenir, comment agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Comment s'adapter lorsqu'il s'agit de refaire une route, de repenser des nouveaux environnements urbains. Comment réfléchir à de grands projets urbains nouveaux. Comment équilibrer développement économique et démographie locale? Comment décarboniser nos économies? Doit-on renoncer à certaines choses au niveau local pour tenir nos engagements au niveau local toujours de l'accord de Paris? Pour débattre de ces questions, nous sommes aujourd'hui en studio avec Benoît Froment, adjoint à la mairie de Villefranche-sur-Saône, chargé des grands projets et des mobilités. Et Benoît, tu es également élu à l'agglo Villefranche-Beaujolais-Saône. Bonsoir Benoît. Alternativement, on se connaît puisque nous sommes assez régulièrement en lien avec toi du fait de tes casquettes politiques sur le dossier de l'écoquartier notamment et celui sur le chantier du Promenoir. Ta position est intéressante parce qu'elle est au cœur un peu de tous ces changements de paradigme auxquels nous devons faire face. Et donc on a prévu du temps ensemble, une trentaine de minutes, pour revenir sur ces questions. Et puis ensuite, nous retrouverons Bernard dans sa truculente chronique de la Calade verte. Et nous terminerons ce rendez-vous comme d'habitude avec un point sur l'actu associatif et l'actu du climat en Calade. Voilà, ça c'est le programme complet pour ce soir. Alors installez-vous, on est ensemble pour une heure avec à la technique Pierre et Gaël, notre duo de bénévoles alternatibiens de choc.
Bonsoir à tous. Météo France a confirmé aujourd'hui que la période juin-juillet-août a été la quatrième la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1900, cet été 2023.
Et puis qu'il faisait bon être au bord de l'eau à Dunkerque, il y avait du monde d'ailleurs sur la plage, 28 degrés et puis 33 degrés à Lacanau avec ce ciel un peu gris parfois, avec un petit peu de sable qui remonte
tout
du Sahara, sinon beaucoup de soleil,
toujours un peu de vent. Pourtant il faut que l'on vous dise. On déplore un tout petit rien.
Les rapports alarmants se succèdent. Méga-feu, inondations, ouragans, canicules records. Le changement climatique n'est plus une menace, c'est une réalité.
Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même, il faut bien le noter, ce que nous anticipons depuis une quarantaine d'années. Ce qui me surprend, c'est la surprise dont certains médias font état.
Total avait conscience de son impact sur le climat depuis 50 ans, mais l'entreprise française a choisi de semer le doute sur la réalité du changement climatique et de freiner toute tentative d'action.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Qui aurait pu prédire ?
L'accord de Paris, il explique qu'il faut aller vers la neutralité carbone, qu'il faut rester aux alentours de 1,5 à moins de 2 degrés. Demain matin, je réunis l'ensemble des opérateurs du ministre pour qu'on commence à construire une trajectoire qui permet de savoir ce qui se passe à 4 degrés.
Notre rôle de scientifique, c'est de dire et redire que si on prend notre temps, eh bien nous allons dans le mur, nous allons vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'est maintenant qu'il faut agir.
Je veux qu'on ait, dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
Jean Jouzel, qui nous rappelle, premier scientifique donc à avoir parlé de réchauffement climatique, paléontologue, qui nous rappelle un peu l'urgence climatique. Ce qui nous rappelle d'ailleurs depuis près de 40 ans, Jacques Chirac en 2022, Emmanuel Macron dans une interview sur la chaîne YouTube de Hugo Décrypte début septembre. Tout cela faisait partie du petit extrait montage que nous a fait JC. Alors, des élèves qui plantent des arbres pour contribuer à l'objectif d'un milliard d'arbres plantés en 2010, est-ce que c'est un bon pas, un bon sens? Est-ce que c'est suffisant face aux catastrophes auxquelles nous devons faire face de plus en plus souvent? 128 000 Canadiens évacués de chez eux cet été lors des grands incendies, des milliers de personnes disparues suite aux inondations au nord-est de la Libye, plus de 80 000 hectares de terre partis en feu en Grèce, des pluies diluviennes en Chine, en Inde, New York sous les eaux récemment, la semaine dernière. Bref, si on prend comme définition des événements climatiques extrêmes quelque chose qui ressemblerait à tout ce qui est fortement éloigné des moyennes, on peut donc dire qu'on vit ce type d'événement de plus en plus fréquent. Et sans s'attarder même sur les événements internationaux, ici en Beaujolais, les conséquences du réchauffement climatique se font sentir. Les pluies sont de moins en moins nombreuses et moins importantes. Moins 36% de pluie entre 2020 et 2022, c'était rappelé lors d'une réunion sur la gestion de l'eau récemment en commission de l'agglo. Qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence pour le maraîchage, pour la viticulture? On notait que le poids des grappes était déjà parfois divisé par deux en 2022. Pour la population générale, l'air que nous respirons est aussi de plus en plus affecté, de moindre qualité, et depuis souvent du fait des effets de vallée un petit peu qu'on a dans la vallée de la Saône aussi. On ressent ces effets-là aussi en ville, notamment sur Villefranche. Alors ma première question sur laquelle je voulais t'interroger, Benoît, sur tout ce climat ambiant, tous ces événements, qu'est-ce que cela t'inspire? Une personne publique comme toi qui vit comme ça, à la fois un pas dans les décisions politiques, puisqu'il y a un certain pouvoir politique, et à la fois qui reste quelqu'un attaché à tout ce qu'on vit. Comment être en réaction par rapport à ces événements? Quelles émotions ça suscite chez toi?
Alors bonsoir à tous, merci pour avoir bien posé effectivement et puis de manière un peu humoristique la problématique qu'on est en train de vivre. Alors si tu m'interroges d'abord sur la question des émotions, moi, j'ai un sentiment extrêmement partagé, en fait, face à ce constat. Alors, peut-être pour rappel, moi, le secteur de l'environnement, j'ai commencé mes études en 92 j'étais à l'université Claude Bernard à Lyon sur une filière biologie, écologie, environnement. Et déjà, j'avais des enseignants qui tiraient la sonnette d'alarme. C'était il y a pratiquement 30 ans. Oui. Alors, aujourd'hui, le premier sentiment, c'est, entre guillemets, de la satisfaction sur l'éclairage public. Je pense que tout le monde a bien pris conscience du bouleversement qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est peut-être un élément de satisfaction. Tous les universitaires, tous les scientifiques, tous les politiques ont ça à la bouche. Je ne sais pas si on a vraiment les solutions, parce qu'effectivement, le constat, et on le voit tous les jours, le constat est vraiment d'une ampleur incroyable. Et donc, les actions à mener sont gigantesques. Alors, on arrive à faire des choses, mais est-ce qu'on arrivera à repartir dans la bonne direction? Ça, je ne le sais pas, et je ne sais pas si quelqu'un le sait. Donc on pourra discuter effectivement de tout ce qu'on fait localement, toute cette politique des petits, moyens et grands pas qu'on essaie de mettre en place. Mais c'est vrai que c'est l'ensemble du système qu'il faut changer. Il ne faut pas oublier les courbes de démographie. Hein. On est 8 milliards. Il y a quelques centaines d'années, on était encore 2, 3, 4 milliards. On a doublé la population. C'est ça qui pose vraiment des problèmes. Notre consommation énergétique continue à croître, ce qui entraîne tous ces changements. Tu parlais de la politique de l'eau. On est pour la 8e année, je crois, ou 9e année, en crise sécheresse, en crise canicule. Et donc ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc en tout cas, le constat, il est là. Donc sur les émotions, voilà, très partagées. À la fois une prise de conscience collective. Moi, j'ai la chance de travailler en milieu universitaire à Lyon, sur un plan professionnel. On a une chaire d'université, justement, sur les vulnérabilités. qui s'intéresse justement à tout cet effet systémique du lien entre la crise environnementale, crise sociale, crise économique, crise de la santé aussi, où on se rend compte que tout est lié. Donc voilà, les scientifiques se penchent sur ces questions-là. Les politiques, on essaye d'amener un certain nombre de solutions qu'on pourra peut-être...
dont on va parler ensuite. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu pour nos auditeurs et auditrices les fonctions et le rôle politique que tu exerces au sein de l'exécutif de Villefranche-sur-Saône et de l'Aglo ?
Donc moi, je suis adjoint au maire Thomas Ravier en charge de tout ce qui est grands projets urbains, aménagement urbain et mobilité. Donc j'ai un certain nombre de chantiers, dont notamment des chantiers assez emblématiques qui sont l'écoquartier Mon Plaisir. Mm-hmm. Puisqu'on est aussi dans une logique de réponse à une nécessité de continuer à produire du logement. Et cette friche industrielle polluée était une bonne opportunité de dépolluer pratiquement 10 hectares et de construire du logement pour élargir un peu le centre-ville, puisque c'est difficile de l'autre côté des voies ferrées d'être un peu attractif. Donc on a un programme d'à peu près 500 logements, qui est un peu notre laboratoire d'innovation urbaine où on essaye justement de construire une ville un peu différente, de réfléchir justement à comment continuer à produire du logement parce que c'est un impératif que nous impose l'État, mais de manière la plus neutre possible en carbone et de manière à mutualiser au maximum la ressource. On va parler d'habitat partagé, d'autopartage, d'espace de convivialité pour justement réduire notre consommation de la ressource et de l'énergie et à la fois aussi créer du lien social. On parle souvent effectivement du lien qu'il y a entre l'environnement et l'aspect social. Donc dans cet écoquartier, on imagine des lieux où il y a un peu plus de subsidiarité, de rencontres, de partage, pour créer du lien social et baisser nos consommations. Donc ça, c'est un premier grand projet. Il y a aussi le grand projet du Promenoir, dont on pourra reparler, qui est un projet déjà qui a quelques années en arrière, qui a été un peu bloqué pendant 2 ans, parce qu'on a découvert, le service de l'État n'avait pas cartographié correctement la zone de Villefranche, et du coup, on est tombé effectivement sur l'ancien cimetière médiéval, et 17e, 18e siècle de la ville. Donc il a fallu laisser l'État procéder à des fouilles, donc ce qui a un peu stoppé les travaux, ce qui nous permet aussi de redéfinir un petit peu la zone de surface, avec plus une volonté de plus végétaliser.
D'ailleurs, ouais, on va en reparler sur les projets
après là-dessus. Après, il y a le grand projet aussi de Belleroche. Donc là, on est dans un quartier en rue, avec pratiquement 100% de logements sociaux, avec des problèmes de sécurité, alors qu'il y a un potentiel magnifique, belle vue sur les collines du Beaujolais. Et donc là, il y a un très grand projet de renouvellement urbain avec un peu plus de mixité sociale.
Et donc sur les mobilités aussi.
Et sur les mobilités, bien sûr. Donc là, on travaille beaucoup sur le schéma vélo à l'échelle de la ville, en attendant un peu ce que fait l'agglomération. Mais au niveau local, donc augmentation des points de stationnement vélo. Et on est en train de définir des axes structurants justement pour favoriser les circulations vélo, mettre en sécurité notamment pour les familles, on pourra aussi y revenir.
Donc du coup, c'est vraiment une espèce de planification, enfin en tout cas ces grands projets permettent de réfléchir à la fois économique et environnement. Au début de la semaine dernière, Emmanuel Macron a lancé la mise en œuvre de la planification écologique de la France. Il a fait part lors d'une prise de parole avec ses ministres de sa définition un petit peu de l'écologie à la française, et on a profité d'un montage réalisé par Camille Cronier dans l'émission La Terre au carré sur France Inter pour prendre bout à bout ce que le président entend par une écologie à la française.
C'est une écologie qui est basée sur la science et sur les résultats objectifs. Une écologie qui crée de la valeur économique, une écologie compétitive, une écologie accessible et juste. Nous voulons une écologie qui protège les Français et la nature. Une écologie qui soit territorialisée.
C'est donc une écologie ni de cure, il nous dit aussi, une sobriété mesurée, pour le citer. Toi, Benoît, dans le cadre des fonctions que tu nous as juste rappelées là, est-ce que tu peux nous dire quelle est un peu la direction sur les plans de réduction de gaz à effet de serre ? Comment on peut, à chaque fois, si on prend sur les grands travaux, on verra sur la mobilité après, mais sur les grands projets, comment vous faites concrètement pour essayer de voir que tout ce qui est entrepris là permettra de moins émettre de gaz à effet de serre?
C'est une question très large. Donc, parce que on voit effectivement que cette question du réchauffement climatique est vraiment systémique, très transversale. Donc, en fait, je vais prendre l'exemple, pour être très concret, je vais prendre l'exemple de l'écoquartier. L'écoquartier, okay. on est accompagné par un cabinet d'études techniques avec lequel on a défini un cahier des charges pour toutes les réalisations dans l'écoquartier,
okay.
et qui passe au crible, effectivement, tous les sujets de l'eau, des déchets, de l'énergie, de la qualité d'air également, des mobilités, des matériaux, énergie bien sûr photovoltaïque. Voilà. Donc en fait, globalement, je vais essayer d'égrener un petit peu les choses. Premier élément, déjà, on est parti d'un écoquartier où il y avait des friches industrielles, des industries du 19e qui étaient ultra polluantes. On avait une usine à gaz qui avait des déchets de houille. Il nous a fallu complètement dépolluer 10 hectares de terrain. Ça nous a coûté quelques millions d'euros pour rendre effectivement un espace qui soit vivable.
Et là, impossible de faire un retour aux industriels pour qu'il y ait une prise en charge.
Non, malheureusement.
Et pourquoi ?
Non.
Parce que la législation ne le permet pas,
parce
ou parce que c'est le temps ?
C'est des vieilles législations. Okay. Et puis parce qu'en fait, souvent les entreprises qui exploitaient les terrains ont été dissoutes, en fait.
D'accord.
Donc on n'a plus de personnes morales en auprès... vers qui s'adresser. Donc on a procédé déjà à ça, on a fait pas mal de déconstruction, et ensuite, tous les matériaux qu'on a pu recycler sur place, on l'a fait. J'ai plus les tonnages en tête, mais par exemple, tous les bâtiments qui ont été détruits, alors quand il y avait de l'amiante, bien sûr, ça part en déchetterie, mais tout ce qui est matériaux pierre ou autre, ont été réutilisés sur place, par exemple, pour faire sous les bitumes des nouvelles voiries, qu'on a mis en place. Et tout ce qui est pierre dorée, on a essayé de recycler et de conserver un maximum.
Et là, est-ce que vous avez les outils pour mesurer les économies que vous faites en termes... Ou alors, je pose la question parce que je sais que c'est très compliqué pour les entreprises, et j'imagine pour les pouvoirs publics pareil, de mesurer un petit peu de mettre des indicateurs vérifiables sur, en faisant cette mesure-là, j'ai permis d'éviter... telle émission de gaz à effet de serre parce que finalement j'ai recyclé sur place, j'ai réutilisé, donc j'ai utilisé moins de camions, etc. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui, est-ce qu'on est équipé par ces outils qui pourraient un petit peu objectiver aussi, au-delà des discours politiques, objectiver la réalité de l'éco, quoi.
Partiellement, parce que quand on a démarré l'éco-quartier, en fait c'est il y a pratiquement 15 ans. C'est quand même un dossier sur le long terme. Et il y a 15 ans, on n'était pas encore dans cet éclairage-là. Et là, il y a à peu près 2 ans, on a remporté ce qu'on appelle un AMI, appel à manifestation d'intérêt, où là, on est accompagné par les services de l'État pour justement mesurer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'aménagement à l'échelle du quartier. La manière dont on aménage un quartier va être responsable pour la moitié des gaz à effet de serre. Et donc l'État, il y a 2 ans, avait lancé un AMI pour justement nous aider à mesurer ça. Donc je pense que dans 1 an, je pourrais peut-être répondre plus précisément à cette question. On est en train de le faire. Mais en tout cas, on sait intuitivement que tous les matériaux qui sont recyclés sur place, ça évite effectivement des transports de camions, des décharges, etc.
Il y a pas mal de réflexions scientifiques ou sociologiques. Je pense à des philosophes comme Baptiste Morisot, ou bien on a récemment entendu Jean Jouzel aussi prendre pas mal la parole sur le paradigme entre développement économique, grands travaux, et défense du vivant, la transition, etc. Est-ce que c'est possible de concilier des grands travaux d'urbanisme, du développement capitalistique, de la croissance, de l'investissement, tu disais c'est important d'avoir des nombres de logements qui augmentent. Est-ce qu'on peut concilier comme ça ces choses qui semblent quand même assez antinomiques et du coup poursuivre une trajectoire de transition qui réponde à l'obligation d'urgence dans laquelle on est, puisque effectivement il faut qu'on réduise d'ici 2030 ou 2050.
C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la démographie, parce qu'en fait, on est obligé. C'est-à-dire que souvent, on est attaqué en disant « vous continuez à construire ». Mais si on ne construit plus, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on met les gens ? On est dans une trajectoire démographique qui continue à augmenter. La Villefranche, on a, sur ces 3-4 dernières années, on a perdu des habitants, alors qu'on a continué à construire du logement. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de divorces, en fait. Donc, tous les logements qu'on a produits ces dernières années ont servi à ce qu'on appelle la décohabitation. Donc, on a deux phénomènes. Un, on a un accroissement de population. Et deux, de plus en plus de familles éclatent et consomment deux logements au lieu d'un. Et ça, souvent, on l'oublie. Donc, on est face à cet impératif et on est obligé de produire du logement. Donc, oui, sur Villefranche, on est obligé. Puis, on a un SCOT qui nous impose, effectivement, un rythme de construction de logements. Après, ça va être effectivement la manière dont on va le construire. Et c'est pour ça que nous, dans l'écoquartier, on a mis en place un cahier des charges environnementales pour que les promoteurs soient obligés de répondre à de nombreux impératifs pour viser à terme peut-être des bâtiments qui sont complètement passifs. Et aujourd'hui, on a des bâtiments, alors ça se voit pas toujours, mais qui font appel à énormément de matériaux biosourcés, donc énormément de bois. Là, on arrive pratiquement à des normes du type 24 kg de bois par mètre carré de logement dans la structure. Là, le dernier immeuble de Fontanelle là, qui est en train de se construire, ça sera l'immeuble qui fait le plus appel justement au bois, donc ça permet de capter du carbone. C'est des logements qui sont tous, on impose qu'ils soient biorientés, traversants, pour favoriser l'entrée de la lumière et du coup avoir une réduction de consommation énergétique, parce que l'hiver, il y aura plus de soleil, l'été, ça sera plus aéré, donc pas de climatisation, moins de chauffage. Des bacs de récupération des eaux de pluie sur tous les immeubles pour arroser les parties communes, des panneaux photovoltaïques pour alimenter en énergie tous les communs, l'obligation d'être accordé au réseau de chaleur urbain. On a la chance à Villefranche d'avoir un réseau de chaleur urbain. Donc, pour rappel pour les auditeurs, on brûle effectivement tous nos déchets, on convertit ça en chaleur et donc c'est de l'énergie renouvelable. Donc, on aura un écoquartier qui sera alimenté à peu près à 80% d'énergie renouvelable. Alors qu'aujourd'hui en France, le mix énergétique, c'est plutôt 15-20% d'énergie renouvelable et 80% d'énergie fossile. Donc on arrive comme ça par des tas de contraintes qu'on met effectivement aux promoteurs d'inverser un petit peu les choses. Après, énormément aussi d'innovation sociale. On a deux projets d'habitat participatif où ce sont des gens effectivement qui décident de vivre ensemble et qui vont définir avec un architecte un petit immeuble de 10-12 logements où ils vont mettre énormément de choses en commun.
Donc là, du coup, on travaille à cette cohabitation qui permet de répondre à la décohabitation, comme tu nous disais.
Exactement.
Tout à l'heure.
Donc ça va faire baisser le besoin en ressources. Par exemple, là, on a des gens qui vont avoir une laverie commune. Au lieu de, sur 10 logements, au lieu d'avoir 10 machines à laver, ils auront une laverie avec 3-4 machines à laver qui se partageront. Et là, cette semaine, j'étais encore en réunion avec eux, et on les pousse vers de l'autopartage. Et là, on est prêt plus. Enfin, les habitants sont prêts effectivement à abandonner leur véhicule personnel et à acheter une ou deux voitures pour 12 logements qui se partageront entre eux.
Calade.
Ma radio.
Et on vient d'écouter Angry, le nouveau morceau des Rolling Stones qui reste bien fidèle à eux-mêmes. Ça reste toujours les mêmes musiques, c'est sympa. On parle donc événements climatiques extrêmes et adaptation dans nos territoires. On est en compagnie de Benoît Froment, qui est donc élu à la ville et à l'agglo. Benoît, on a parlé un peu des grands projets éco-quartiers, comment on essayait de faire un peu en sorte d'être plus sobre dans nos comportements. Est-ce que au niveau de ce qui est plus, alors on a parlé habitat, mais je voudrais parler plus au niveau économique, au niveau développement économique. Il y a aussi donc ce projet du Promenoir avec la création de ce parking souterrain, amener la voiture encore en ville. Est-ce que c'est pas un peu du siècle dernier?
Alors sur le Promenoir, en fait, on n'amène pas la voiture en ville, on l'enfouit. C'est-à-dire que la voiture, elle est déjà présente. Le nombre de places sera à peu près équivalent entre ce qu'il y avait hier et ce qu'il y aura demain. Simplement, on l'enlève de la surface et on la met en souterrain. Voilà, ça, c'est le parti pris du projet tel qu'il a été défini il y a quelques temps.
Donc, ce n'est pas un accroissement, ce n'est pas un aspirateur encore à voiture.
Non, ce n'est pas un aspirateur à voiture. Après, la question de la voiture, elle est très compliqué et personne aujourd'hui a la solution, hein, parce qu'on voit aussi le coût carbone des voitures électriques. Hein. Je me suis un peu penché sur le sujet personnellement et je ne suis pas encore complètement convaincu. Donc, ce qu'il faut, la réduction de la place de la voiture passera aussi par l'offre de mobilité douce. Avec le projet du Promenoir, on favorise les mobilités douces. C'est-à-dire qu'on va redégager la place complètement de la voiture. Tout sera en souterrain, ça permettra effectivement de capter les flux de voitures et de les enterrer, et de redonner une vraie place aux piétons, aux cycles, à la marche, parce que la première mobilité douce, c'est quand même la marche. Et d'ailleurs, le maire Thomas Ravier a souhaité qu'on développe un plan marche à l'échelle de la ville, parce que finalement, c'est quand même ça. On est à une échelle de taille de ville qui peut vraiment favoriser le développement de la marche. Et c'est ça la philosophie du Promenoir, c'est d'avoir un espace dégagé qui reste attractif, où on puisse tenir beaucoup de manifestations, comme c'était le cas à l'époque, pour soutenir aussi le commerce de centre-ville, le commerce de proximité. On
Mais
a la chance d'avoir
ça...
cette rue nationale qui est absolument magnifique, il faut la conserver.
Mais est-ce que tout ça, c'est pas trop pensé projet ? C'est-à-dire qu'on a, nous, l'impression d'un projet Promenoir, d'un projet Écoquartier, d'un projet Belle Roche, et d'un projet Épinay, où là, on est vraiment dans du développement du commerce qui va à l'encontre, finalement, de la rue Natte. Est-ce que nos échelles politiques sont encore celles aujourd'hui qui correspondent à la nécessité d'avancer plus de manière structurelle et systémique sur un territoire pour justement arriver à pas mettre finalement en concurrence les collectivités les unes contre les autres et les usages les uns contre les autres. Quand on voit que la marche et le vélo aujourd'hui se partagent des espaces alors qu'on laisse tout l'espace à la voiture, est-ce qu'on n'est pas en train là de finalement pas suffisamment choper choper l'urgence finalement qu'il y a à réfléchir différemment, à repenser nos politiques, à repenser la manière dont on aborde le désirable pour les usagers.
Alors, il y a plusieurs choses. C'est le rôle de l'agglomération, le phasage entre les communes. Moi, je ne suis pas dans l'exécutif de l'agglomération. La ZAC d'Épinay, effectivement, me questionne. On a un commerce de proximité avec la rue nationale qui fonctionne très bien. On sait que le développement de zones commerciales ou de zones économiques à l'extérieur, en périphérie des centres, crée des mobilités voitures, des pollutions, des flux qui sont effectivement émetteurs de gaz à effet de serre. On est dans l'urbanisme des années 80-90.
Tout voilà. À fait.
Bon. Donc, mais ça, c'est du côté de l'agglo, c'est pas. Enfin, voilà, c'est pas moi la responsable. Nous, à l'échelle de la ville, on a effectivement des projets majeurs qui sont des traductions, quand même, d'une politique d'ensemble, de maillage et de proximité. Et là, je reviens encore une fois à l'écoquartier. L'écoquartier, le choix qui a été fait, c'est de ne pas avoir un quartier uniquement de logement, mais avoir aussi de l'activité économique. Il y a le département du Rhône qui offre 150 emplois. Enfin, l'objectif, c'est créer aussi de l'emploi dans les cœurs de ville. C'est ce qu'on appelle la mixité d'usage. Il faut que partout dans la ville, on évite d'avoir des quartiers qui dorment, des quartiers qui travaillent, parce que c'est ça qui engendre des besoins de mobilité. Les mobilités les moins polluantes, c'est les non-mobilités, en fait. C'est moins on se déplace, moins on pollue. Donc il faut qu'on arrive à structurer le territoire pour que chacun puisse effectivement avoir accès au commerce, à son travail, à son logement, le plus près possible, pour susciter le moins de, pour générer le moins de déplacements. Et c'est aussi la philosophie avec Belleroche, Promenoir, Écoquartier. C'est mailler tout ça, avoir de l'activité économique un petit peu partout. Belleroche aussi, on a envie d'avoir des choses de proximité, des activités de proximité, de la culture aussi. Le Promenoir aussi.
Et de l'emploi.
Et de l'emploi, c'est ça. Pour que les gens, en fait, puissent... Enfin, moi, Villefranche, je suis persuadé que ça serait... qu'il faut qu'on arrive à créer un peu la ville du quart d'heure, ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, qu'on puisse tout faire à peu près un quart d'heure à pied. Moi, j'habite en centre-ville, je fais tout à pied, j'ai même pas besoin de vélo, pardon. Je sais que vous êtes militant pour le vélo, moi aussi, mais finalement, à pied, on arrive à faire la majorité des choses. Donc, il faut qu'on arrive à disséminer tout ça sans fragiliser, par exemple, sur le boulevard de l'Europe. Aujourd'hui, on interdit tout ce qui est commerce de vêtements, d'équipements de la personne ou de la maison, qu'on veut vraiment laisser à la rue nationale parce que ça fonctionne bien. Et boulevard de l'Europe, c'est uniquement les concessionnaires de voitures ou les cuisines, enfin voilà, les gros équipements où il faut aller chercher des choses un peu lourdes, donc on est obligé d'y aller.
Et tout ça,
voiture.
C'est développé dans des plans de... Enfin, il y a des outils qui permettent...
Dans le PLU, effectivement, dans le PLU. Et puis, dans la vision politique que les élus incarnent, on l'a à l'esprit en permanence, et dans toutes les décisions très opérationnelles qu'on doit avoir, c'est dans nos têtes.
Okay. Et par rapport justement à ces connaissances ou ces stratégies que vous avez dans vos têtes, quelles sont les problématiques aujourd'hui d'adaptation principales auxquelles tu penses, vous, en tant qu'élu, vous faites face en termes de politique d'adaptation locale? C'est-à-dire comment vous pouvez traduire toutes les mesures nationales ou internationales qui nous tombent, qui vous tombent sur les épaules en tant que décideur politique, comment vous pouvez les traduire localement justement à travers ces PLU, PLUI, on sait qu'au niveau de l'agglo, il y en a un qui est en train d'être réfléchi, c'est même un peu plus large que l'agglo. Concrètement, est-ce que vous êtes formé, vous, en tant qu'élu, sur les problématiques du climat et de réduction des gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y a des manières pour vous, justement, de repenser un petit peu l'action politique? Non pas, tu disais tout à l'heure, sur des projets des années 80-90, mais bien sur des projets de 2020 ou voire de 2030, parce qu'on sait que si on ne réduit pas à 1,5 ou 2 degrés le réchauffement climatique, et ben dans la deuxième moitié, donc c'est après-demain, de ce siècle-là, ça va quand même être très très dur pour les habitants.
Alors, on a des services techniques sur lesquels on s'appuie beaucoup pour prendre nos décisions, pour nous éclairer, donc ce sont des ingénieurs, des techniciens qui, eux, se forment assez régulièrement, qui sont bien au sujet de toutes ces thématiques-là. Et après, effectivement, on a des systèmes de formation. Donc, on a assez régulièrement l'AMF 69, c'est l'Association des maires de France, qui nous propose effectivement des formations sur ces thématiques. Et je sais que mes collègues élus sont assez friands de tous ces sujets-là. Après, c'est après la responsabilité de chaque élu aussi de suivre un peu l'actualité, d'avoir des lectures, de suivre des conférences. Moi, j'ai la chance d'être dans un milieu universitaire où on travaille aussi beaucoup ces sujets-là. Donc, on est alimenté très largement.
Le temps avance et je voulais te faire réagir sur une dernière chose justement qu'on a pu lire ou entendre récemment suite à ces événements climatiques extrêmes qui ont secoué tout l'été et paradoxalement à ce climato-sceptisme hein, qui a refait un peu refait rejailli en tout cas sur les réseaux sociaux. Jean Jouzel, donc qui est on l'a entendu tout à l'heure dans la petite capsule, a été pas mal tensé au niveau du MEDEF et par le PDG Total quand il parlait de sobriété, de moins consommer et de nécessité de changement de paradigme, justement entre concilier les grands travaux, le développement capitaliste, économique. Il a eu plusieurs sorties et il parlait de quelque chose que j'ai noté, c'était de dire que le capitalisme, finalement, tel qu'on le vit actuellement, n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que tu en penses ?
Là, on change de registre.
en fait, c'était comment le changement d'organisation de nos sociétés doit vraiment être le paradigme premier dans la décision politique et économique. Et je trouvais que comment nous, en local, on devait faire pour que ce changement d'organisation soit concret, se concrétise. Et
je crois que c'est vraiment le rôle de tous. J'ai en tête une entreprise qui vient de s'installer sur Villefranche qui fait une technologie de bois paille. Déjà, nous, on a initié le plus grand bâtiment public de France, donc l'école Jean Massé en Pizet. Donc ce sont des matériaux effectivement naturels et qui a une capacité thermique qui est très intéressante à la fois l'hiver et l'été. On a aussi un spécialiste du bois paille. Donc pour moi, les entreprises sont en train aussi de s'adapter, de proposer des choses nouvelles. Donc c'est vraiment... c'est quelque chose de commun. Je dis toujours que ce n'est pas la planète qui est en danger. C'est l'homme sur la planète qui est en danger. La planète, elle sera toujours là. Il y aura d'autres espèces. C'est quand même nous, humains. Et les humains, c'est les entrepreneurs, c'est les politiques, c'est les responsables associatifs, c'est tout un chacun chez soi. C'est tout le monde qui doit aller dans le même sens. Et je reste quand même assez optimiste parce qu'il y a une vraie prise de conscience des politiques. Et les entreprises capitalistiques, pas de problème, proposent vraiment des innovations. Même les bétonniers sont en train de réfléchir à comment décarboner complètement les industries béton parce qu'elles sont extrêmement polluantes. Il y a énormément d'innovations, donc je pense que c'est vraiment tous main dans la main qu'on pourra y arriver.
Ma France à moi, elle est joyeuse, elle dit bonjour et comment allez-vous? Mais elle sait dire non, elle est frondeuse, on ne la fera jamais mettre à genoux. Ma France à moi, celle que j'adore, celle qui chantait le chant des partisans, celle des Klarsfeld, celle de Senghor, celle de Prévert et la France des paysans. France de Stendhal, Champfort, Molière, France de Balzac, La Fontaine et Victor, des frères Lumière, d'Apollinaire, d'Alfred Jarry, des chants de Maldoror. Ma France à moi, qu'avant tout j'aime, c'est celle de la liberté d'expression. Les mots d'amour, voire les blasphèmes, sont l'essentiel de ma respiration. France de Matisse, Monet, Soulage, France de des proches et des tweets de pivot, France de Coluche, France du partage, France de Daumier, Gottlieb et Picasso. Ma France à moi, peut-être croyante, mais a parfaitement le droit d'être athée. Bible ou Coran, si ça lui chante, elle dit pardon, c'est pas ma tasse de thé. Ma France à moi, elle est gourmande d'accordéon, de jazz et de Verdi. Elle chérit ses enfants de légende, ceux du Veldiv et ceux du paradis. L'obscurantisme d'un autre âge, les fanatismes, elle en a fait son deuil. Aucun racisme, aucun clivage ne sont bienvenus sur sa terre d'accueil. Nos femmes en France embrassent et dansent, libres d'aimer, de faire valser les textos. S'apprécient guère qu'on les tabasse, mais d'être voilées, ce ne sont pas des bateaux. Et oui, ma France adore ses femmes, les Barbara, Colette, Marie Curie. Les deux Beaufort, celles qui s'enflamment, Lucie Aubrac, Simone Veil, Adjani. Ma France de Jaurès fut compagne, et des savants, des chercheurs, elle raffole. Jules Ferry, Pasteur, Charlemagne, c'est grâce à eux qu'on va tous à l'école. Bien sûr, ma France, elle est laïque, de pensée libre et libre de parole. C'est la France, la République, les religions s'apprennent pas à l'école. Cette France que certains haïssaient, à ceux qui l'aiment, il vous faut la laisser. Cette chanson libre jaillit de mon cœur. J'aimerais que les écoliers l'apprennent par cœur. Car cette France-là, tel est mon vœu. Je souhaite qu'elle soit demain leur France à eux. Car ma France à moi, elle est comme ça.
Calade, ma radio sans pub.
Et on vient d'entendre Pierre Perret avec Ma France à moi. Et on arrive au terme de ce moment pour notre thème principal d'aujourd'hui. Merci Benoît pour être venu ce soir, adjoint à la mairie de Villefranche-sur-Saône et chargé des grands projets et des mobilités, et élu à l'agglo, même si ce n'est pas dans l'exécutif, on l'aura entendu. Merci et à une prochaine fois et bonne
Merci
continuation.
À vous,
vous pourrez retrouver, chers auditeurs et auditrices, sur la page de l'émission, les lectures conseils qui nous ont aidés à préparer ce thème. Je vous conseille notamment L'Inexploré de Baptiste Morisot, un super ouvrage. Les travaux aussi d'Alexandre Monin sur la stratégie et le design de l'Anthropocène et les notions de redirection écologique. On essaiera de l'avoir d'ailleurs en invité dans un de ces quatre. Et puis, vous pouvez aussi aller lire un ouvrage de et avec Jean Jouzel, Le climat à l'itinéraire d'un pionnier. Merci à vous tous de votre écoute sur ce thème. Et c'est maintenant l'heure d'écouter la chronique de la Calade verte, l'actu climat au vitriol, par notre alternative bien du verbe. Bonsoir Bernard.
Yanso et bonsoir à toutes et à tous. Un été en Calade. Ce fut, n'en doutons point, un été singulier. Plusieurs météorologues en devinrent fous alliés. Envolés les repères, finis les certitudes, voilà nos spécialistes en totale hébétude. Eh bien oui, parce que de partout, ça s'emballe. Et tout le monde se pose la question à 100 balles. Mais jusqu'où tout cela va-t-il bien nous mener ? Criant « Au secours, help ! Pouvez-vous nous ramener des saisons régulières, un rythme immuable, équilibre garant d'une planète vivable ? Ça suffit la chaleur, c'est bien pour quelques jours, mais pas des mois entiers à vivre dans un four. Et les feux des forêts, et les inondations, alors qu'on n'a plus d'eau pour faire nos ablutions. Ou alors, trop pollué pour être vraiment honnête, que ce soit en bidon, en bouteille, en canette. Et tous ces ouragans, ces typhons, ces tempêtes, on va effectivement les avoir à perpète ? Ah oui, c'est vraiment dur de rester flegmatique chaque fois qu'on aborde le sujet climatique. C'est plus du changement, c'est vraiment le chaos. Oui, oui, comme à la boxe, on peut dire le chaos. On encaisse les coups, mais pour combien de temps ? Voilà une question qui n'a rien d'exaltant. Les causes, on les connaît, faut-il les rappeler ? On en parle partout, et même à la télé. La question, c'est d'agir. Et là, il n'y a plus grand monde, sauf bien sûr celles et ceux qui confondent action en profondeur et éco-blanchiment. Alors, disons les choses, méfions-nous carrément de toutes leurs belles paroles pleines de contradictions, de tous ces termes creux pour faire diversion, de tous ces croissance verte ou développement durable. Tout ça, c'est du pipeau, ce n'est plus acceptable. L'urgence est là, ancrée dans notre quotidien. Il faut maintenant tout de suite passer aux grands moyens. Or, que se passe-t-il ? Que font nos décideurs ? Seraient-ils devenus, pour notre plus grand bonheur, lucides au point de prendre des mesures drastiques que la nécessité impose ? Ça tomberait à pic. Où auraient-ils trouvé leur chemin de Damas, cependant au secours d'un monde à la ramasse ? On peut toujours rêver. Force est de constater qu'insensibles au fracas de nos calamités, ils défendent bec et ongles le business as usual, qui reste la règle d'or, la loi du capital. Ils ont toujours les clés du rouleau compresseur, ils arrachent, ils nivellent. C'est eux les concasseurs. Bientôt on les verra se poser sur la lune, tout est bon dès lors que ça rentre de la thune. D'autant qu'ils sont devenus les maîtres des médias, bâtissant des empires, authentiques mafias passés maîtres dans l'art de nous désinformer pour nous faire oublier qu'il faudrait réformer. Statistiques faussées par des experts bidons, si vous les écoutez, vous serez les dindons d'une farce sinistre. Alors, tout est perdu, fini ? Doit-on subir longtemps toute cette tyrannie ? Non ! Face à eux se dressent debout, déterminés, des hommes et des femmes hyper-vitaminés, lucides, intraitables et réclamant justice, mus par une colère saine et inspiratrice. Ils se soulèvent pour l'eau, la biodiversité, la défense des communs, contre la rapacité d'une minorité accapareuse, cupide et toujours à l'affût des projets écocides. Et c'est là que survient un deuxième scandale. Car, en guise de réponse, on ne fait pas plus brutal. On leur parle justice ? Ils répondent répression. On leur parle dialogue ? Ils répondent agression. On leur parle transparence ? Ils répondent censure. On dit démocratie ? Ils répondent dictature. Comment dire autrement un monde où tout est fait, depuis le président jusqu'au moindre préfet, pour bâillonner, museler, empêcher toute parole? On s'exprime peut-être, mais alors sous contrôle. Leur terminologie est claire, on ne dit plus « activiste », tout ce qui est hors des clous est « éco-terroriste ». Là, ça rigole plus, on arrête la blague, ils nous ont fait entrer dans l'ère de la schlag. Alors, que faire devant cet abus de puissance? Ça tient en un seul mot, mais quel mot? Résistance, car la pire des choses, c'est la résignation. Alors ne cédons pas à l'intimidation. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes des milliers. Notre combat est juste et nous sommes reliés par un souci commun, défendre le vivant. Objectif à lui seul tellement motivant. Nous avons l'énergie et nous avons le nombre. De quoi n'en doutons pas faire sortir de l'ombre toutes elles et tous ceux qui souhaitent devenir acteurs, avides de se construire un avenir prometteur. En Calade et pas loin, les motifs ne manquent pas. Alors, à très bientôt pour des actions sympas. Maintenant, terminons vite pour partir pas trop tard. Revenons en Calade et parlons de Bernard. Non pas de moi, bien sûr, mais de Bernard Perru. Notre ex-député, pas vraiment disparu, est depuis quelque temps dans le viseur des juges et se révèle expert dans l'art du subterfuge. Récemment convoqué pour une affaire de sous, il se dit dépressif dans le 36e dessous, donc bien sûr incapable d'aller au tribunal. On ne l'a pas inventé, c'était dans le journal. Dans le genre d'érobade, c'est de l'éléphantesque. Que dis-je, éléphantesque? C'est Bernard Perubuesque. Bonne soirée, à bientôt pour une nouvelle chronique. Et surtout, tenez bon en ces moments critiques.
Et c'est la fin de cette émission. On va continuer, terminer rapidement avec nos prochains rendez-vous. Nos prochains rendez-vous, c'est le film, la séquence de film par Alternativa, Alter Ciné. Vous allez pouvoir voir le film qui s'appelle Sabotage. C'est un film de Daniel Goldhaber. Face à l'urgence climatique, un groupe de jeunes activistes se fixe la mission de saboter un pipeline qui chemine du pétrole dans tous les États-Unis. Donc c'est un film en avant-première sur Villefranche, en exclusivité, dans ce partenariat avec Alternativa et les 400 coups. On vous laisse voir sur les pages internet de Alternativa et du 400 coups pour la diffusion. Et puis on va faire suivre cette diffusion par une formation à l'action non violente, à l'action de désobéissance civile non violente. Ce sera le samedi 14 octobre. Regardez sur nos réseaux sociaux pour Alternativa pour trouver le lien d'inscription. Et puis on voulait aussi vous parler, avant de terminer, de l'association Demain, c'est ici et maintenant, qui organise un événement en partenariat avec beaucoup d'autres associations sur le territoire des Beaujolais-Pierre-de-Saône. Ça s'appelle la Semaine du Vivant. Sol, réchauffement climatique, santé, plantes, tout cela, ce sont les thèmes qui vous guideront à travers différentes activités. Toute une semaine où vont intervenir pêle-mêle des étudiants, du grand public, des élus, avec des balades botaniques, des visites sur le terrain, pour vous montrer un peu en pratique toutes les solutions proposées par cette personne. Il y aura 3 intervenants de taille qu'on voulait citer. Marc-André Solos, qui est un biologiste et qui va nous parler de la richesse de la vie des sols. Il y aura aussi Gérard Dusserf, un autre botaniste, qui va faire des balades botaniques et de la conférence sur la santé et le réchauffement climatique. Et puis Marc Neira, un habitant du territoire que l'on connaît, qui va également faire une conférence sur le réchauffement climatique et l'agriculture. Tout ça, ça se passe dans les différentes communes du territoire Beaujolais-Pierre-Doré. Et c'est du 5 au 15 octobre. Vous trouverez des informations sur leur site Demain, ici, maintenant, / la semaine des vivants. On vous met tout ça sur notre site internet. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission de reprise. On vous remercie tous pour votre écoute. Un grand merci à Pierre et à Gaël qui étaient derrière les manettes ce soir. Et on se retrouve dans un mois. Merci Radio Calade.
Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange. On n'a plus le temps de faire semblant, alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.